Tu
Ah, quand nous.
Ah bah, Yann, hag c'hwiz o lib vel just de choaz o yez de mesklam da ou sa traoù. Lukian Kergouad, merci d'avoir accepté l'invitation de Skate ce soir. Votre intervention est intitulée « C'est pas le même breton ». Vous allez nous parler du syndrome de l'intercompréhension impossible. Alors vous allez nous expliquer ce que c'est que cette chose-là. En théorie, on présente plutôt ces conférences du lundi à Skate en français pour que tout le monde puisse le comprendre, mais bon, parfois avec du breton dedans ou en breton. Enfin, je laisse Lucian choisir dans quelle langue il intervient et quel mélange savant on n'a pas de micro ce soir, je pense que ce ne sera pas un souci. Il y aura d'abord l'intervention de Lucian et puis il y a évidemment un temps pour échanger, poser vos questions. Donc n'hésitez pas à élever un peu la voix si besoin. Pour ce qui est de Lucian, je ne fais pas de souci. À mon avis, il sera bien entendu jusqu'au fond de la salle. Bon, un petit mot, je crois que quasiment tout le monde vous connaît ici ce soir. Très rapidement, vous êtes linguiste, écrivain, spécialiste, comme vous l'avez dit, de l'aspect fonctionnel, pratique de la linguistique et de la dialectologie. Vous avez été maître de conférence à l'université de Rennes 2. Vous êtes membre de l'Institut culturel de Bretagne, membre du centre de terminologie des écoles d'Iwan, me dit votre fiche Wikipédia. Et je vous laisserai la parole en citant un petit proverbe. Je crois que vous aimez bien les proverbes. Que j'ai trouvé sur votre profil d'un réseau social bien connu. Kers da stagar navel de zarstrapen va tenter d'attacher le vent à un pieu. Sur ce, je vous laisse la parole. Merci.
Voilà. Bon. C'est le défi qu'on va essayer de relever. Penaos eo ar bet gane ar. Matre. Chez moi, j'aurais dit, penaos eo ar bet gane ar. Ah, c'est pas le même breton. Donc il y a la variation dans le breton, et il y a la perception de cette variation-là, qui va être un peu le thème de ce que je vais vous présenter. Alors d'abord, avant de vous parler de la perception de la différence en breton, on va aborder la variation en elle-même. Comme dans toutes les langues, il y a... Alors, lorsque la projection sera prête, on pourra démarrer. Il y a la variation. Donc, c'est pas le même breton, même comme vous le voyez, les statues en granit Bigouden vous le soutiennent. Il y a la variation en breton. Ah. Bon. Ah. Bon, il y a un petit problème. J'ai pourtant essayé tout à l'heure, mais... Name, go. Il y a la variation en breton, sur différents plans, hein, des mots de vocabulaire qui sont différents, parce qu'on a aussi des synonymes. Par exemple, pour dire paille, il y a colo et plus. Colo, comme vous le voyez, est... se limite au nord-ouest de la Bretagne. Et le reste de la Bretagne est remplacé par un mot emprunté au roman. C'est le mot pelouse, qui a donné plus. Donc, quelquefois, c'est une région qui a gardé le mot celtique, d'autres fois, c'est une autre. Le mot colonne n'a pas été complètement oublié. Des régions, on ne l'utilise plus beaucoup. Par exemple, une ruche, rusken, peut se dire aussi coloen, quand elle était faite en paille, bon, ce qui est assez rare aujourd'hui. On entassait le plus, mais quand on parlait du tas, c'était bernkolo. Vous voyez, donc le terme ancien n'a quand même pas été complètement oublié. Un autre exemple, pour changer de région, alors un peu plus à l'est, on a le Trégor. Dans le Trégor, les gens ne se lèvent pas le matin, deux à midin, mais deux à beurre. Beurre, c'est le mot celtique. Mintin, matin, hein, voilà, c'est le mot roman, c'est l'emprunt au roman. Emprunt, en fait. En fait, on emprunt. On n'emprunte pas, on vole. On rend jamais ce qu'on a emprunté. Et d'ailleurs, très souvent, on le triture pour le naturaliser. Donc, on a comme ça une variation sur le plan du vocabulaire, des synonymes, voilà. Il y a la variation également sur le plan syntaxique, sur le plan grammatical. Prenons le verbe chanter. Dans la plus grande partie de la Bretagne, de la Basse-Bretagne, on oppose la deuxième personne du singulier à la deuxième personne du pluriel. On peut dire tu et on peut dire vous. Hein? Pas grandes quand tu chantes, pas grandes, hein? Quand vous chantez. Par contre, dans une région centrale, on a perdu le tutoiement, un peu comme en anglais, qui a connu autrefois également le tutoiement, qui ne l'utilise plus aujourd'hui. Voilà. Donc, de la variation sur le plan grammatical. Et de la variation sur le plan de la prononciation. Vous avez remarqué que dans la phrase que j'ai prononcée tout à l'heure, de deux manières, la seconde était un peu plus ramassée, plus concise, plus courte. Quand on parle en cours, on peut se faire comprendre pourquoi s'embêter à parler plus longuement. Donc il y a un breton de feignant et un breton de gens qui sont beaucoup plus staccanoïstes. D'une certaine manière. Et alors, prenons un autre exemple. On est dans une région où l'on parle Brezounek. Amant et Vesclevet, Brezounek. Chez moi, on dira Amant Ve, et non pas Vez. Le Z final est perdu dans Ve, dans Menes, Mene, Neves, Neve, Russe. Oui, on boit du Gunru chez nous et non pas du Gunrus. Avec les lettres Brezonek, avec un O et non pas un OU, une voyelle donc moins fermée que dans le Nord. Et puis en plus, comme je vous ai remarqué tout à l'heure, il y a le tempo, la vitesse à laquelle on va déclamer une phrase. Alors, Amant Vesclevet Brezonek, top, chrono, n'avez pas beaucoup de temps, vous parlez, avec les présents, amant, et clé, vous voyez, on a réduit le mot, voilà, mais ça existe dans toutes les langues, je sais pas, il n'y a pas plus de contraction en breton que dans cet exemple-là. Alors, Cette variation a amené les linguistes à parler de dialecte, donc de variation en fonction de la géographie, du territoire. Ce sont des géolectes. Hein, combien de dialectes y a-t-il? Anatole de Monzy, qui était ministre de l'Éducation en 1925, après avoir été ministre de trois ou quatre autres choses, d'ailleurs, et je crois qu'il a été quatre fois ministre dans l'année, et de des ministères différents. On lui a donné l'éducation pour terminer, et on lui a posé la question de l'enseignement du breton dans les écoles, Il a vu comme réponse, on ne peut pas enseigner une langue dans laquelle existent 90 dialectes. 90. Pourquoi 90? Tout simplement parce que Pierre Leroux, qui enseignait le breton à l'université de Rennes à l'époque, venait de publier les premiers tomes de l'Atlas linguistique de la Basse-Bretagne. Et il s'était déplacé en vélo à différents endroits de Bretagne pour demander de quelle manière on disait telle chose. Donc 600 mots différents. 90 lieux d'enquête. Donc la réponse du ministre était apparemment scientifique. Hein. Sauf que, Pierre Leroux s'était déplacé en vélo. S'il avait une voiture, on n'aurait pas eu 90 dialectes, mais 250, sans doute. Donc, alors, la réponse, il y a un farceur là qui la glisse, hein, « Quand bro, quand kiss, quand pares, quand ilis, quand maues, quand ivis, sans pays, sans mode, sans paroisse, sans église, sans femme, sans chemise de femme. » Ah. Voilà. Combien y a-t-il de dialectes? Alors, je pensais bien que ça chauffait aussi. j'ai laissé la lampe allumée. Traditionnellement, on considère qu'il y a 4 dialectes bretons. Depuis la première grammaire du breton, qui est le Sacré Collège de Jésus, du Père Monnoir, hein, publié en 1659, où il précise que il va donner différentes formes dans le dictionnaire et dans la grammaire, selon qu'il est dans chacun des 4 évêchés bretons où se trouvent les 4 dialectes armoriques. Lorsque vous prenez la variation du breton, ça ne veut pas dire grand-chose, ces séparations-là. Vous trouverez rarement des lignes isogloses, des lignes qui séparent les manières différentes de dire. Vous trouverez rarement des lignes isogloses qui correspondent aux limites des évêchés. La seule carte qu'on peut dresser, c'est celle-ci, qui correspond en gros aux 4 évêchés dont parlait le Père Monnoir, 4 évêchés auxquels on va rajouter un supplémentaire, parce qu'il n'y avait pas que 4 évêchés en Basse-Bretagne, mais 5, et même 6 en considérant à l'époque celui de Nantes, parce que le pays de Guérande parlait également breton à l'époque. Et au moins pour 5 des évêchés, il y a 5 façons différentes de traduire le mot « quand ». Quand, alors dans le Léon on dira peur, P-heure, à quelle heure? Heure en emprunt au français, hein, à cette heure, à ce moment-ci. Dans le Trégor, Pégouls, Couls, la période, le moment, et P, qui fait muter le mot Couls en Gouls, Pégouls. La Cornouaille travaille avec P, et marée, un autre mot, un autre synonyme pour dire le moment, la période. Donc, pévaré, avec des formes parfois plus longues, pédavare et pésavare. Voilà. Et puis, dans le pays vantais, on retrouve le mot couls avec un rotacisme. Hein, le L a été transformé en R et ça donne pégours. C'est la seule carte. Et, ah oui, j'oubliais le cinquième, larron. Le pays de Paimpol, le pays de Guélo. Au Guélo, il ne faut surtout pas dire qu'on est très gros, hein, qu'ils sont très gros. C'est la partie donc du diocèse de Saint-Brieuc qui parlait breton. Et ils ont également une manière différente de dire quand, paix d'Amser. Donc c'est Amser le temps, voilà, que l'on a fait précéder de P, enfin, l'évolution du mot pev. Toutes les autres cartes que vous pouvez transcrire seront n'ont rien à voir avec les limites dialectales, les isoglosses coupent la Bretagne dans un sens, dans un autre, du nord au sud, du l'est à l'ouest, nord-ouest, sud-ouest, etc. Donc il y a la variation. Et une variation qu'on peut trouver même, non pas au niveau dialectal, mais au niveau topolecal. Étudier le topolec, c'est prendre le zoom et descendre vraiment sur un lieu très très limité. Et comme exemple, je vais vous montrer l'endroit où je suis né. Aujourd'hui, Google Earth permet d'avoir les photos. Voilà, donc les bâtiments ont changé, hein, c'est plus exactement comme ça. Voilà la ferme où je suis né. Autour de la cour de cette ferme-là, j'entendais 4 topolectes. 4. Et il y avait ici 2 pentis, et il y avait 2 fermes. Et pour les 4 mots qui sont là, pour le reste, c'était pas différent. Hein. Je suis allé chercher quand même la différence. j'ai fait effort pour chercher la différence. Pour le mot « roer »,« roas », »,« pevare », la manière de dire « quand », et puis « pehini », voilà ce que j'entendais en passant d'une maison à l'autre. Si bien que la dialectologie et même la topolectologie, j'en ai fait depuis tout petit. Comme ça. C'est même un traumatisme historique. Je me rappelle ma grand-mère me courant après, en me disant « Rui, peusgré d'un drame en roi, rui, à vos paquets de ganignes, rui, sauvons-le, rui, rui, rui. » Ça, c'est la grand-mère qui me courait après. Et puis ici, entre deux bâtiments, bon, il y a un des bâtiments qui n'est plus là, donc maintenant on ne voit plus, il y avait un passage. Bon, il y avait 50 cm de large. Moi, je passais, la grand-mère ne passait pas. Et donc, du coup, chaque fois, je m'engouffrais dans ce passage-là. Et je me rappelle encore la sortie. Ça faisait 6 mètres, hein, le pignon d'une maison. Donc, au bout de 6 mètres, j'ai encore le souvenir de sentir un bras qui m'avait soulevé par le col de ma chemise. « Ah, fille, à songe et d'or, mon cuit, mais fils au bêta, pas de gagné, à fils au monde de glaive, être vraiment. » J'étais passé du monde du roui, la cour de la ferme, au monde du fi, 6 mètres plus loin. Vous voyez, la variation, on peut vous gratter, vous allez en trouver, et vous allez même en trouver, même dans ma maison. Il y a, en ini, chez nous on est feignant, donc on ne dit pas en ini, mais en ni. Hein, c'est plus facile, plus simple de dire une seule syllabe que deux. Donc en ni. C'est ce que disait mon père. Et la mère, en aïe. Qui est aussi la variation de en anni. En anni, c'est le nord de la Bretagne, en anni, c'est le sud. Chez nous, comme on est feignants, on abrège les deux. Donc, l'un disait hi, pehi, pehini, pehi, et l'autre disait perrin, perrin, hein, perrani, perrin. Voilà. Vous voyez? Dans la même maison. Voilà. Donc, il y a la variation, il y en a. Hein. C'est ce qu'on appelle les topolectes. Alors, pourquoi est-ce que il y avait tout ça autour de la cour de la ferme? Parce que les familles qui étaient là n'étaient pas toutes originaires de l'endroit. Hein, il y avait une famille qui venait du canton de Briec, une autre du canton de Châtelain, du canton de Plonéour, ça c'est des Bigoulins, donc, qui est arrivé là. Donc, voilà la variation dialectale. Il n'y a pas que cette variation-là. Ah oui, non, je passe. Donc on est... Je vais regarder ma préparation. Aujourd'hui, les notes que l'on a, ce sont les planches contact. Donc là, j'ai oublié que j'avais une autre diapositive. On a fait de la topolectologie. Alors, prenons un peu de distance. Là, parfois, la Bretagne est au croisement d'influences européennes. Pomme de terre. Comment dit-on pomme de terre en breton? Ben, il y a deux manières de le dire. Il y a avaloudouar, donc la traduction de pomme de terre, avaloudouar, et il y a patates. Avaloudouar, c'est le mot hard apple, néerlandais, qui est passé en français, qui est passé en breton. Et patates, c'est le mot batata, qui veut espagnol, patate douce, qui est aussi passé en français, patate, hein, on dit également patate, pomme de terre, patate. Eh bien, en breton, on a également les deux. Et là, on a une ligne dialectale, le nord-ouest, patates, et puis, ou le nord, plutôt, patates, et le sud, avaloudouar. Et patates, on le trouve sous deux formes, patates et pato. Vous allez dans le Trégor, ils diront patates, ils diront pato. Parce que c'est un mot emprunté, mais on ne l'a pas emprunté au même endroit. Il y a ceux qui l'ont emprunté au français, volé au français, je veux dire. On n'a pas emprunté une seule pomme de terre. On a emprunté des patates. Des patates. C'est pour ça qu'il y a un S. Et une fois qu'on a emprunté le pluriel, on lui a donné un sens collectif. Donc, patates, c'est un vrac de patates. Dont on va tirer le singulatif, une patate, patatesen. Pour pas mal de légumes, c'est ce qu'on a fait, hein, ou de fruits. Pêches, pêchesen, etc. Carottes, carottesen. Voilà. Alors, ceux qui ont emprunté aux Français et ceux qui ont emprunté aux Anglais, potato. Ben oui, on est un pays qui fait beaucoup de commerce avec la Grande-Bretagne, et donc la forme pato, c'est l'emprunt, mais c'est l'emprunt qui est passé du mot patata, qui est passé non pas par le français, mais par l'anglais. Voilà, la variation dialectale. Merci pour la bouteille. Ça n'est pas la seule variation qui existe en breton, comme dans les autres langues. En fonction des métiers, de l'éducation, des activités des gens, les bretonnants ne parlaient pas de la même manière. Il y avait un breton des villes et un breton des champs. Les villes qui faisaient du commerce, qui entretenaient des relations avec un espace beaucoup plus large, avaient généralement un breton peut-être mieux articulé. C'est Bloglandaire à propos d'Arlequin dans le théâtre breton qui parlait de Léonard mitigé parlé dans les villes. Alors, c'est trop tard pour aller enregistrer ce breton-là. Parce que Quimper, que vous avez devant vous, là, ne parle plus breton. Mais les commerçants de Quimper avaient une manière d'articuler un peu différente de l'environnement. Pierre Leroux, lorsqu'il a rédigé son atlas linguistique, précisait dans l'introduction de son ouvrage qu'il avait évité les villes. Dans la mesure où l'on trouvait dans les villes une sorte de mélange qui n'était de nulle part. Ah oui, dommage. Dommage qu'il n'ait pas enregistré ce melting pot des villes, hein, parce que, bon, il aurait été très intéressant de savoir quelles étaient les forces de centrifuges dans la langue, alors qu'il avait privilégié les forces qui séparaient les formes du breton. Un breton des champs, un breton des villes, un breton des commerçants, un breton des agriculteurs. Tout à l'heure, c'est Fertri qui est venu me demander de dire deux mots. Je crois leur avoir dit que, naturellement, les marchands du Léon qui venaient acheter des chevaux en Cornouailles faisaient leur marché en breton. Donc, se comprenaient. À l'époque, on ne leur répondait pas « Oh, c'est pas le même breton !» Oh, quelquefois, on faisait de l'humour, hein. Sur les quelques formes un peu différentes, d'autant plus que je parle des marchands du Léon, les marchands de chevaux qui venaient en Cornouailles acheter donc des juments ou des poulains. et qui venaient en Cornouailles acheter en bouche. Le bouche, c'est le néon, le mot léonard pour dire poulain. À l'arcailleur, on dit able, un able. Alors le marchand léonard se présentant dans une ferme, demandant à la patronne, « Itoun, mes maisons est au casque bouchou d'abréna. » Et la fermière de lui répondre, « Bouchou d'abréna, mais en moins à bouchou à verro et de vinitra. » Parce que bouche en Cornouailles, c'est un baiser. Alors que dans le Nord, on dit poc. Bon, c'est peut-être des manières différentes de donner un baiser. Hein, ça. Bon, voilà. J'avais un oncle qui était marchand de cochons, qui avait drainait un peu tout de la Cornouaille. Je ne l'ai jamais entendu dire que « Oh, c'est pas le même breton. » Les sociolectes. Une autre variation dans la langue. Il y a une autre variation qui est liée à l'âge. Voilà, ici vous avez un breton typique, hein. Type de vieux breton de Plogonac. Je suis né à Plogonac, donc c'est peut-être quelqu'un de la famille. Celui-ci devait avoir l'âge de mon grand-père. Son breton n'était pas le même que le mien. J'ai relevé un certain nombre de formes qu'utilisaient les britophones nés avant la guerre de 14 comparé à la formulation d'après la guerre de 14. Il y a eu une variation, comme par exemple dans la manière de marquer l'objet comme avant ou après le verbe. Mésodède de Colette, avant la guerre 14. Mésodède avait la Ranach. Vous voyez, Mésodède de Colette, Edwan de Gaout, Edwan de Gaout, Edwan de Gaout à néant, à néant. La coupure pour ces formes-là, c'est la guerre 14, en gros. Alors naturellement, les gosses aujourd'hui qui dans les cours de l'école ne parlent pas comme leur arrière-grand-père d'avant la guerre 14. Mais dans toutes les langues, c'est ainsi. Une autre variation concerne tout le monde. Deux bretonnants ne parlent pas de la même manière. Comme deux francophones. Chacun a sa manière d'utiliser la langue. Comme même Achille Talon, comme vous voyez là, qui met du hop partout. Hein. Ah, hop, dira Achille Talon en breton. Certains vont utiliser plus fréquemment tel ou tel adverbe, d'autres des phrases plus longues, plus courtes, etc. Donc, l'idiolecte, c'est la variation qui concerne absolument tout le monde. Et plus particulièrement, les écrivains qui, eux, prennent plaisir à... Ah non, pardon. J'avais mis une illustration que j'ai dû enlever. Non, elle n'est pas déplacée. Les écrivains, plus particulièrement, jouent sur cette corde-là, en inventant parfois des images qui leur sont propres. Et pour finir la présentation de la variation lectale, donc pas dialectale mais lectale, il y a le panlect. Le panlect, c'est la forme commune, généralement sur une base écrite, sur laquelle tout le monde se met d'accord, et qui ensuite est déclinée à l'oral par tous les bretonnants comme ils veulent. Naturellement, on n'aura pas un manuel de mathématiques pour le Léon, un autre pour le Trégor, un autre pour la Cornouaille, comme on pouvait avoir un catéchisme de Quimper et de Léon, et un catéchisme du Trégor et un autre pour le Pays Vantais. Parce qu'on n'avait plus à l'époque quatre dialectes, mais il n'y avait plus que trois. le département du Finistère comprenait le Léon et la Cornouaille, une partie de la Cornouaille, si bien qu'on a eu à un certain moment trois pamphlets écrits. Là, aujourd'hui, ma foi, les écoles bilingues recouvrent toute la Bretagne, hein. Et les enseignants de ces écoles-là circulent aussi d'une école comme l'autre, d'une école à l'autre, si bien que le pont-lec est le même pour tous. Voilà pour ce qui est de la variation lectale. Ça varie encore en fonction de ce qu'on appelle les registres de langue, ou le niveau de langue. J'ai pris là à Gare du Nord comme exemple, dans sa version en breton, hein. Otigares nalinkedon disul. Une manière de le dire, et puis l'autre manière, kerskut pesinoisen. Voilà, on a changé de registre. On a changé de registre comme on peut changer de tempo. Je ne sais pas, je vous le disais à l'instant, je ne sais pas, on a réduit de 50%. C'est à peu près les taux de réduction qu'on peut trouver en breton, pas plus. Hein. Dans les variations lectales les plus fainéantes, mais bien sûr. Entre « je ne sais pas » et « je sais pas », il y a « je ne sais pas »,« je ne sais pas » et « je sais pas ». Vous voyez, quatre manières. On entendra rarement, pourtant, l'expression « ah, c'est pas le même français ». Alors ici, le clocher de l'église de ma commune, de ma paroisse plutôt, le Gonac, avec le mot « quoi » prononcé de trois manières différentes. Petra, dans toutes les chansons, donc dans le registre de littérature orale, dans le niveau littéraire. Dans tous les chants, on prononcera la forme longue Petra. Mais comme on est de naturel un peu feignant chez nous, ça fait beaucoup de voyelles et de consonnes. Si on pouvait réduire, donc on réduit. Et la première réduction, c'est Petra. On a perdu le R. Et alors, la forme la plus réduite, c'est Petra. Voilà. Dans un tempo encore plus rapide. Le tempo, ça permet aussi de créer de la variation. Et enfin, l'argot. Il y a un argot, en breton, comme dans toutes les langues. Poise d'un moment, possible d'Isard et à lucarne. Ça, c'est de l'argot de jeunes. Et quand l'enseignant répond « ya », au lieu de dire « trugare », il va dire « truc ». Ça s'entend dans toutes les écoles, dans tous les lycées et collèges bilingues de Bretagne aujourd'hui. C'est de l'argot. Les langues aussi créent leur argot. Alors, il y a celui d'aujourd'hui et celui d'hier. Nekedes ding bazengi, de avanchom et de journal du Zontéon. Vous n'avez rien compris. Personne ne peut comprendre ce que je viens de dire. Parce que la société qui avait créé cet argot-là n'existe plus. C'était l'argot des artisans de la ville de Pont-l'Abbé, il y a un siècle, qu'on retrouve dans les romans de Johan Dresden. « Chôme d'un journal d'hiver de Zantéon. J'étais resté traîné tard du Zantéon le soir, la nuit. Et Théon, c'est le radical de Théval, l'obscurité, voilà. Donc, personne n'utilise cela. Voilà, vous avez bien compris. Donc, il y a la variation en breton. Il y a la variation. Et puis, il y a l'idée que s'en font les Bretons, ou certains d'entre eux en tout cas, et qui amènent des répliques de ce type. C'est pas le même breton. Andrés Orobrezonek Diwan Sur. Et du coup, bon, c'est plus par amusement que comme concept scientifique approuvé que j'ai avancé l'idée du SDEC, syndrome die Halluste de Nem Gompren, le syndrome de l'incompréhension impossible. Alors, comme j'ai commencé à vous raconter ma vie en parlant de la cour de la ferme où je suis né, je vais peut-être vous prendre un autre exemple de cette ce fameux SDEC. Mes enfants étaient jeunes. On avait un dimanche matin visité le cairn de Barnenes. Bon, c'est un dimanche matin, donc il n'y avait pas grand monde, il y avait que nous, la famille. La dame qui se trouvait à l'entrée nous a parlé breton. En nous entendant parler breton, elle est venue nous parler breton. Ça a duré un petit moment, jusqu'à cette question. D'où êtes-vous ? Avec un père. Ah ! Le Quimper, ah ! Tout de suite un basculement linguistique, changement de langue. Ah, c'est pas le même breton. On avait parlé breton avant, et à partir de ce moment-là, c'est plus le même breton. C'est une sorte de boule qui est virtuelle qui s'enfonce dans les oreilles. La distance faisait que c'était impossible de se comprendre. Alors qu'en fait, dans la période d'avant, on s'était bien compris. Elle avait sans doute senti des différences, mais le simple fait de préciser l'échelle faisait que le sentiment de différence s'était aussi amplifié. Alors, parfois la distance est moins grande. Une autre fois, les enfants étaient encore plus jeunes. On cherchait une personne pour garder notre fille. Il avait téléphoné. Bon, on a mis une petite annonce. Il y avait plusieurs réponses. Donc, au téléphone, un certain nombre de personnes avaient répondu, parlaient breton. Donc, on est allé voir une personne. Et puis, on ouvre la porte, on parle breton. Jusqu'à la question, mais d'où êtes-vous ? Le plus connu. Ah ! C'est pas le même breton. Et là aussi, changement linguistique, jusqu'à ce que le mari qui se trouve au fond du couloir dit « Mais si, c'est le même roi, même ce breton, Andrés et même ce breton, voilà. » À partir du moment où on n'habitait pas le lieu, on ne pouvait pas se comprendre. Et c'est toujours d'actualité. Le télégramme 2014. Les bretonnants du nord et du sud Bigoudin peuvent se comprendre. Et ils l'ont prouvé samedi matin. À l'occasion d'un échange entre bretonnants organisé à Plonio. Enfin, quelquefois, on peut aussi répondre en comprenant le quête. Mais pour d'autres raisons. Prester Meren, le repas de midi est-il prêt ? Alors, pourquoi ce sentiment ? Pourquoi ce sentiment, dès que l'on s'éloigne un peu d'un endroit précis, que l'intercompréhension n'est plus possible ? Ça n'a pas toujours été comme cela. Comme je vous le disais, lorsque l'on commerçait autrefois, le commerce faisait en monde. C'est un phénomène récent. Un phénomène récent dans des générations qui, à la différence des générations précédentes, n'ont pas eu de contact avec la forme écrite de la langue. Il y a 50 ans et plus, le clergé continuait d'entretenir une relation entretenir donc une relation à la langue écrite. Le catéchisme en breton, ça fait longtemps qu'il n'y en a plus, mais il y a eu pendant très très longtemps. Donc, l'exclusion du breton de la cour de l'école d'abord, mais ensuite des programmes, etc., ont sans doute généré le sentiment que le breton, c'était une langue sans normes, sans référence, etc. Je vous donnerai la parole tout à l'heure sur cette question-là. Je ne vais peut-être pas vous donner tous les éléments de réponse. Il y a peut-être une autre raison qui m'est venue à l'idée l'année dernière. Moi, j'habite à Locronan, exactement ici. Il y a un chemin communal qui traverse la cour de la ferme. Et un couple de retraités, de jeunes retraités, traverse la cour. On parle de tout et de rien. Je me suis dit que, vu leur âge, ils devaient parler breton. Donc, je leur parle en breton. Ça a duré 5 minutes. On a parlé de tout et de rien. Ma petite fille, qui n'était pas très très loin, elle s'est approchée à un moment. Je lui dis quelque chose, ou c'est elle qui m'a dit quelque chose, je ne me rappelle plus. Mais c'était en breton. Et à partir de ce moment-là, les boules cassent. C'est pas le même breton. Voilà. Tant que je leur parlais, c'était un breton compréhensible. À partir du moment où je parlais à ma petite fille, c'était plus compréhensible. Et là, je me demande il n'y a pas là, ce sont les psycholinguistes qui devraient travailler sur cette question. S'il n'y a pas une sorte de culpabilisation, une sorte de mauvaise conscience d'une transmission qui n'a pas été faite. Généralement, c'est les gens qui vous tiendront ces propos, c'est pas le même breton, etc., sont justement des générations qui, quand parlaient le breton, auraient pu l'apprendre à leurs enfants, mais ne l'ont pas fait. Alors on se dédouane d'une certaine manière en disant, c'était pas possible d'enseigner, d'apprendre cette langue-là, dans la mesure où il n'y a pas un breton, il y en a 36, c'est tellement différent, voilà. Cette idée m'est venue, mais il faudra la recreuser. Cette idée m'est venue justement en entendant la réflexion de ce couple qui traversait la cour de la ferme. Alors, moi, je lui demandais, mais de se plaire, il était d'où, ici, ailleurs? 5 kilomètres, 3 kilomètres. Je connais où je suis né, voilà. Voilà la perception qu'ont les gens de la variation. Alors, les antidotes à ce syndrome. Ah, moi j'étais un peu petite, oui, j'aurais dû agrandir. Bon. Ceci, c'est une photo d'un stalag en Allemagne pendant la guerre. C'est le stalag de Mühlberg, en Allemagne, dans la partie orientale de l'Allemagne, où mon père a été prisonnier. Après le stalag qui a été dirigé vers un commando à la campagne pour travailler dans les fermes, ils étaient à 8. Et les 8 prisonniers qui étaient avec lui étaient tous bretons et tous bretonnants. Bon, les prisonniers de guerre, au début, l'armée française a été défaite, les prisonniers de guerre bretons ont été séparés des prisonniers de guerre français, pour beaucoup d'entre eux, et sont de cette manière trouvés très souvent ensemble. Là, il y avait 8. 8 bretonnants qui ont passé 5 ans ensemble et qui ont bretonné. Donc là, mes premiers cours de dialectologie, c'est finalement mon père qui me les a donnés. Il me disait toujours, « Erchot d'armor, Erchot du Nord, qui est tort. Non, mais non, c'est Erchot d'Armor. Erchot du Nord, et avec l'évêque dans la même raison de Gagamant. Vous voyez, Quimper, et les côtes du Nord à l'époque, hein, on entend le même breton que chez nous. Ah, c'était pas le c'est pas le même breton, hein, c'était pas l'autre bout de la commune ou la commune d'à côté. Payer d'Aléon, jaune, drague, benac, nequetré, mamestra. Ah oui. Ils boivent du gun russe alors que chez nous on buvait du gun rue. Voilà. Ré à Morbihan, à Ré à zo starter d'Agompon. Ils sont plus durs à comprendre. Voilà. Mais ils les comprenaient. Et ils parlaient breton. Et donc, je me rappelle l'avoir accompagné. Rendre visite à ses anciens camarades d'Allemagne dans les années, lorsqu'à l'époque où je suivais encore mes parents, hein, donc dans le Trégor, dans le pays Vannetais, partout. Et je l'ai entendu parler breton partout. Par contre, moi je comprenais pas tout. Donc, le melting pot, justement, le mélange, fait que on s'habitue aux formes différentes, et puis on n'a plus du tout la même sensation de différence. Le rapport à l'écrit. Voilà la chapelle où j'allais à la messe tous les dimanches quand j'étais jeune, quand j'étais gamin. Et le curé en chair parlait breton, en notre croissant. Sais-tu asé entre neves à moi de la barre à dehors. C'est ce que j'entendais. Ah, j'étais vraiment étonné, moi qui se trouvais ici au fond de l'église. J'étais vraiment étonné parce que il avait une drôle de manière de parler breton, ce curé-là. Et le curé, je le voyais également à la maison quand il venait faire la quête. À l'époque, les curés venaient faire la quête à la maison. Et lorsqu'il venait nous voir, il parlait le même breton que nous. Et il suffisait qu'il monte en chair pour que tout de suite, ça n'était plus le même breton. Ouais, il aurait dû dire ceci, « C'est entre neve et moi de l'ardor. » Eh bien non, ce n'est pas ce qu'il disait. Donc, la relation à l'écrit fait que, petit à petit, je comprenais ce qu'il disait quand même. Hein. Mais ce n'était pas la manière que j'avais de dire les choses. Donc, le rapport à la forme étendue, la forme écrite, aide aussi les choses. Et puis, les médias, d'une manière générale, il y a une quinzaine d'années, même plus, presque 20 maintenant, j'ai eu droit à la piscine gratuite payée par la Sécu suite à un accident. Alors je me retrouvais toujours avec les mêmes personnes à la piscine, le même jour. Et puis un jour, on s'est mis à parler du breton, etc. Et puis une dame qui était là, qui me dit... Ah, n'est que d'un même espresso, n'est qu'avec l'évêque de Varantélé et Kin. Ah, je me suis dit, ça y est, c'est encore le SDEC, je n'y ai pas pensé, le SDEC encore. Mais c'est encore, c'est pas le même breton. Eh bien, non. Elle me dit, moi j'écoute toujours l'émission du dimanche, depuis toute jeune. Mais quand j'étais jeune, hein, c'était pas le même breton. Tandis que maintenant, c'est à peu près le breton de par ici. Eh bien non, c'est pas ce qui s'est passé. Il y a 20 ans, 30 ans, c'était pas... on parlait pas plus le breton de Quimper à la télé qu'aujourd'hui. Mais c'est l'oreille de la dame qui s'est adaptée à la différence, à la variation, et qui aujourd'hui ne perçoit plus la différence comme étant quelque chose d'incompréhensible. Donc les médias aussi ont un rôle à jouer. Comme antidote, donc, au steak. Alors, c'est pas le même breton, versus c'est plus le même breton. Autrefois et aujourd'hui. Voilà, les panneaux bilingues sur le bord de la route. Regardez comme ça, il n'y en a pas beaucoup encore. Hein. Mais ça commence, hein, celui-ci est dans la région de Quimper. Hein. Rappel, Pébrit. Ah, c'est plus le même breton. Parce qu'on a perçu une petite différence par rapport à Bébrit, on ne l'utilise pas beaucoup chez nous. On dira plutôt Atao. Boateau. Jarman. Et Bébrit, beaucoup moins. Mais il faut dire que, pour ce qui est des panneaux, il faut se mettre d'accord sur une forme. On ne va pas utiliser une forme dans un endroit et une autre dans un autre, parce qu'il existe des synonymes. C'est plus le même breton. J'ai envie de dire, heureusement. Et pour vous montrer que c'est plus le même breton, je vais poser une devinette. Dans un dorm, pegen troit, agegile ermaer, et quiz et antennet, agebe buntet ganagomitel. De spesser labour et de scaus, agan pesser benvec. Alors, qui me dit, peut me dire de quoi il s'agit? De quel outil? Ça fait référence à quelle activité? Ah ben, sur le plan technologique, naturellement, on ne fonctionne plus comme ça aujourd'hui, hein? Aujourd'hui, c'est un débroussailleuse. Et puis voilà. Par contre, autrefois, quand on coupait à la faux, chaque partie de la faux avait son nom, à Biziger, à Maer, à Gomitel, voilà. Donc, le breton change naturellement parce que la technologie change. Et le breton change également sur le plan grammatical, hein, comme je vous le laissais entendre tout à l'heure, hein, à propos des chronolectes, ceux qui sont nés avant la guerre 14 ne parlent pas exactement de la même manière que ceux qui sont nés après. Enfin, il n'y en a plus beaucoup, hein, ni d'avant ni d'après d'ailleurs. Voilà une photo ancienne d'un Fesnos à Plogonec avec deux manières de dire. L'Odaneo, l'Avar, de Dondokwelet. L'Odezoto, là, de Dondavel Hanach. De Dondavel et de Hanach. De Dondokwelet. L'Odaneo, certains d'entre eux. L'Odezoto, l'Odahuto. Et puis l'Avar. Eh bien, les lavards, on les entendait encore dans la bouche des personnes âgées, quand j'étais jeune. Par contre, la génération suivante est devenue plus fainéante. Elle a tout contracté en lard. Lavarette, lard. Trois syllabes, une. Non, je ne sais pas, je ne sais pas. Donc, c'est plus le même breton, forcément. Ça évolue également sur le plan phonétique. Brau. Brau, brau et un amzer. Brau. Cet air roulé, on l'entend de moins en moins. Dans mon pays, on ne l'entendait plus, même quand j'étais jeune, sauf quand on chantait. Lorsqu'on chantait, le chant maintient l'archaïsme, et donc la forme roulée revenait souvent. Bon, d'une manière générale, cet R, le lieu d'articulation du R qui est aujourd'hui à cet endroit-ci, hein, c'est une évolution qu'a connue toute l'Europe, hein, pas seulement la langue bretonne. Une bonne partie de l'allemand ne roule plus l'R. Le R roulé, on le retrouve plus qu'en dans le sud de l'Allemagne et puis en Autriche. Et puis il est arrivé jusqu'en Norvège, comme vous voyez. Il était même arrivé jusqu'à Moscou. Avant la révolution russe, c'était de bon ton de parler russe sans rouler l'air. Et puis Staline est venu. Naturellement, Staline qui, lui, roulait plus que deux, hein, le R a interdit de prononcer le russe. D'une certaine manière, le russe savant, donc, a perdu son R à l'occidental. Alors le breton, c'est la même chose. On a changé notre manière de prononcer le R aujourd'hui. Voilà. Les normes changent. À lesen, nedle, punissa, nemet pavé, absolument, clairement nécessaire. À bunisium, adlebe, à proportion d'achim, à profitable d'un nol. Voilà la traduction officielle faite par le ministère de la Justice à l'époque révolutionnaire. La déclaration des droits en déclaration de la Vuriou en den aga citoyen. La langue bretonne a été langue officielle entre 1790 et 1794, jusqu'à la période de la Terreur, où la politique linguistique de l'État a complètement changé. Hein. Les tendances politiques aussi, hein, la montagne a gagné sur la Gironde. Mais, comme vous le voyez, le standard de l'époque n'est pas exactement le standard d'aujourd'hui. On hérite d'une tradition de breton de curé qui avait emprunté plus que de raison des mots français et qu'on retrouve donc dans cette formulation-là. Et ça continue à évoluer. Cool et asport. Vous n'empêcherez pas les gosses de dire ça, que c'est cool. Cooler. Plus cool. Et qu'est-ce qui est à Hula, le plus cool? Ah oui. Bon, pour l'instant, dans la langue littéraire, je ne suis pas sûr que ça a trouvé sa place encore, mais c'est pas le même breton, d'abord. Donc, les langues évoluent. Et puis, dans un pays qui a connu une véritable révolution depuis la dernière guerre, ça n'est rien d'étonnant. Hein, le breton des champs est devenu un breton des villes, donc il ne parle plus de la même chose. La ville, c'est un creuset. Donc, où se mettront en forme des melting pots, forcément, un mélange. Dans les années 70, il y a eu un revival musical, une renaissance, et puis une réappropriation par des générations du breton. Donc on a beaucoup de bretonnants d'aujourd'hui qui sont des bretonnants d'apprentissage, qui ne sont pas des bretonnants de naissance, mais qui ont appris le breton par différents moyens. Le regard qu'a le breton sur ce qu'il est a également évolué, hein, d'une manière complexée. Il y a 50 ans, on est passé à un regard beaucoup plus positif, et tellement positif que on commence à marquer, à prendre nos marques, hein, y compris à l'international. L'extension .bzh, et même le Grenadus sur nos voitures. Le drapeau du Parti autonomiste, adopté par le Parti autonomiste en 1927, c'est le drapeau des autonomistes, qui est devenu aujourd'hui le drapeau revendiqué par tous les Bretons. Donc, il y a ce regard qu'ont les Bretons sur eux-mêmes qui font que sur le regard qu'ils ont sur leur langue va également certainement changer. Pour ne pas rester sur un point de vue, pessimiste. Hein. Et puis, le sentiment qu'un peuple de ce qu'il est, on le trouve aussi dans le miroir de l'étranger. Et le miroir de l'étranger, il donne ceci. Par deux fois, le journal d'équipe, lorsqu'il y a eu les finales que vous connaissez, dont vous avez souvenir, le journal d'équipe est venu en Bretagne pour demander qu'on leur traduise la première page en breton. C'est pas les Bretons qui ont demandé. Autrement dit, la langue fait aujourd'hui partie de ce qui, objectivement, constitue l'identité bretonne. Dans le miroir de l'étranger. Alors, pour finir sur la norme, il faut dire quelque chose sur la norme aussi. Alors, le bon breton, le breton authentique. Non, je regarde l'heure, on a encore. Bon, oui. La norme, c'est d'abord de l'écrit, hein. Et Dieu sait si aujourd'hui, il y a d'autres outils pour écrire, comme par exemple le breton SMS, hein, « Neke des andrasés ». Ah oui, pour écrire vite, on sera bien obligé de réduire, hein, en breton comme dans les autres langues. Bon, alors, le bon breton. Où se trouve le bon breton? Il y a aussi cette idée-là que le bon breton se trouve certainement quelque part. C'est ce que disait le Père Monnoir, qui s'était attaché à baser sa grammaire et son dictionnaire sur le breton qui lui paraissait être la référence, celui du Nord-Ouest, celui du dialecte du Léon. Bon. Alors, pour beaucoup de bretonnants, il y a sûrement un bon breton quelque part, mais il est ailleurs. Vous allez dans le pays Vannetais, donc dans le Morbihan, on vous dira « Oh, y'a ni gonze breton mad, mais avec le mot de dur breton, il m'a redemandé d'en Finistère. » Il faut aller en Finistère. Alors, vous prenez votre voiture, vous arrivez dans le Finistère, vous arrivez à Quimper. Oh, moi, on m'avait dit, strip de Brison, mais vu que là, Brison est mort, qu'un monde de Léon. Il faut aller à Léon. Donc, vous prenez la route du Léon. Vous arrivez dans le bon Léon. Ah, y'a gars, moi, avec les mains de Brisonnec, mal, distingue. Et puis, à force de vous dire que c'est encore plus loin, vous arrivez à Saint-Paul-de-Léon, et à Saint-Paul-de-Léon, on finit par vous dire que c'est quelque part des deux côtés d'un talus qui fait la séparation entre la commune d'Invic et puis de Tolé. Donc, vous prenez la direction, cette direction-là, pour chercher le fameux talus. Ah oui, mais le remembrement est passé par là. Bon, alors, bon, à présent, les maths. Donc, à une sorte de breton populaire idéalisé qui existerait quelque part. Ça a été le Brezonec Belek, à une certaine manière, à une certaine période, à l'époque où le clergé constituait la seule intelligentsia de langue bretonne. Et voilà donc une phrase tirée de Réflexiono profitap. La fin vechou divesa de zandine, gana préparation nous d'amaro. En notre brise. Et puis le curé, donc, qui va reprendre la phrase et dire à ceux qui l'écoutent, en traumaol considéré de mat, a hel redeum da gumpren, petraeo en tourmanchou, a zo préparat, en nivern, et vid a revechon. Voilà. Les tourments de l'enfer pour les méchants. Andrahe azo brezonek mat. Ce que pensaient les gens. Donc le brezonek beleg a été la norme à un moment. Ensuite, ça a évolué. Hein, je vous ferai grâce de toutes les évolutions. Aujourd'hui, ma foi, une autre référence, c'est le breton des médias. Au tout début du breton à la télé, on est aux alentours du 1970, hein, donc il y a presque 40 ans. On voyait la tête de Franche Wulig apparaître sur l'écran pour la minute hebdomadaire de breton, minute et demie. Et en 1971, ça a été multiplié par deux. Une minute et demie, c'est le temps qu'il fallait pour faire cuire un œuf. Plouf! Chamaille, c'est du tonton Franchement Télé, la gavio bagasolone, plouf! La tête de Franche Brudic disparaissait, l'œuf était cuit. Donc en 1971, on a pu manger des œufs deux fois par semaine. Bon. Le breton des médias, c'est aussi je regarde où je suis là, je suis un peu perdu. C'est aussi un peu la référence aujourd'hui, avec toujours alors une autre réflexion. C'est pas le même breton, c'est plus le même breton. Et puis Andrés au présent avec OGM. Je l'ai entendu sur la place de l'Ocronan il y a quelques mois. À propos d'un texte publié dans le bulletin municipal. Il me dit, j'essaie de le lire, mais ça, c'est pas le breton d'ici. Alors, je lui posais la question, est-ce que tu sais lire le breton? Ben non. Voilà. Donc, il sait le parler, mais ne sachant pas le lire, forcément que lorsque l'on écrit sous une forme et que la prononciation est la réduction à 50% de ce que l'on a écrit, on ne va pas... Pour pouvoir lire le texte. Alors, c'est ce qu'on entend parfois. Maintenant que l'initialétique bilingue est petit à petit en train de se mettre en place. Ce qu'il ne faudrait pas, c'est que le breton... Ce qu'il ne faudrait pas, c'est que le breton soit un décalque du français, bien sûr. L'inverse, d'une certaine manière, de ce que tu as très bien... décrit ce que sont les bretonismes. Hein. « Fine, les crêpes seront pas bonnes avec nous. La toise est tout pouloudée. Je sais pas qu'est-ce qui a pris dans mon derrière de changer de farine. » René Pichavant, « L'ornis comme on cause. » Alors, on peut tourner cela aussi en breton et retrouver des décalques du français en breton. C'est ce qu'on appelle le « code-switching hein, ». C'est le des codes linguistiques qui se mélangent. L'écrit continuera forcément toujours à être la référence du pont-lect. C'est vrai pour le breton comme pour toute langue. Les médias donnent la forme orale de ce pont de lecte-là. Je me rappelle le débat qu'il y avait eu. On est ici à Quimper, à Radio Bleu Breizh-Izel, qui est Breizh-Izel aujourd'hui, alors que c'était RBO avant. À la création de RBO, on avait organisé une réunion à Quimper sur la question du type de breton qu'on allait diffuser. J'ai posé la question, ça va. Quelle sera la dose de dialectal et d'uniché qu'on va utiliser? Et puis on est arrivé à cette conclusion que les interviews qu'on ferait à droite et à gauche, forcément, apporteraient le dialectal dans les émissions. Et donc il convenait peut-être, pour les journalistes, d'avoir un breton moyen. Donc de se rapprocher plus du pont de l'Ecte que d'une trop grande variation. Et c'est un peu ce qui s'est fait, hein, aussi bien à la télévision qu'à la radio. Les écoles, qui aujourd'hui sont un autre référent, naturellement vont également proposer des normes qui seront les mêmes pour tous. Libre à vous, ensuite, de les prononcer l'énoncé du théorème de Thalès comme vous voudrez. Il est d'ailleurs beaucoup plus facile à comprendre hein, depuis qu'il existe en breton. La signalétique bilingue, hein, bon, on a vu tout à l'heure des panneaux, on la retrouve également ici par exemple sur un TER, train downers, diesel train on, evit béage du propor, auteur à l'évest de sa nature. L'Office de la langue bretonne accompagne tout ce travail de normalisation. Bon, je fais partie du conseil scientifique de cet office et on se réunit donc régulièrement pour normer ce dont la langue bretonne a besoin pour pouvoir rentrer dans la vie officielle, voilà. Celle des mairies, hein, ou d'autres administrations. Ceci dit, la norme elle-même évolue, comme dans toute langue. Si vous prenez la grammaire de Kervella de 1947, donc il y a plus de 50 ans, et la description des formes proposées pour la conjugaison du verbe avoir, omus, achus, endus. Et vous prenez une des dernières grammaires, celle de Schalm, 2008, constaterez que ce ne sont plus les mêmes formes qui sont proposées comme référence à la norme. Dans la mesure où la forme populaire, pus, a pris le dessus sur la forme hus, qu'on retrouve encore, hein, localement, prononcé fus d'ailleurs, ou hus, mais c'est devenu de plus en plus réduit, et la forme pus, petit à petit, s'est étendue, et c'est devenu la forme dominante, et de loin. Si bien qu'aujourd'hui, les grammaires ont mis en conformité l'usage avec la forme orale. Toutes les langues évoluent de cette manière-là. Et pour dire le monde, et pour pouvoir enseigner, naturellement qu'il faut aussi un travail de normalisation. Samedi prochain, je passerai une journée avec la Kreisenagaria, oui, le centre de terminologie, qui normalise le vocabulaire scientifique, qui permet aujourd'hui d'enseigner en breton, par le vecteur du breton, toutes les matières, y compris les matières scientifiques, jusqu'à la terminale. Alors, naturellement, aberration chromatique longitudinale, c'est sur le site internet Breton Nagunan Varnugen, Breton 21, hein, Breton Nagunan Varnugen, disponible sur internet. On a une base de données de plus de 50 000 termes scientifiques qu'on peut consulter. Alors, du breton chimique, ça ? Mais c'est chimique dans toutes les langues. Voilà. Bon, la réponse des Bigoudan, hein, oui. Genavek Penpeu, c'est plus court en breton. Bon, c'est de l'humour. Alors, le devenir du breton. Le devenir du breton, ben, ce sont les locuteurs qui vous diront ce qui sera. Hein. Une langue appartient à ses locuteurs. Pas à ceux qui, en français, vous diront « Ah, c'est pas le même breton !»« Ah, c'est plus le même breton !»« Ah, c'est du breton OGM !» Voilà. Dire le monde de 2018, voilà. On le fait aujourd'hui, hein, dans l'enseignement bilingue, sur le net, hein, voilà une des premières émissions de Brazil Web, hein, la chaîne sur le net, créée en 2010, et j'ai eu dans la butine. Donc c'est ces générations-là, c'est le chronolecte de cette génération-là qui sera le breton de demain, et pas le mien. Sais-tu? Alors, Chomara Amzorganum, un peu Sranda Hulendra Pedra, Peda Larat Dundra Uspen, Peda Hulen, Peda Larat Morkedadu. Donc, question, avis, opinion. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu à vos interrogations, hein, parce qu'on m'a demandé de venir intervenir. Je ne savais pas exactement sur quel thème intervenir, mais je pensais à celui-là, dans la mesure où il est un peu d'actualité. Donc, oui. Alors, si vous voulez bien parler un peu fort, parce que autant je peux parler fort, donc on m'entend, mais j'entends pas très très bien. Ouais.
forcément voulu faire apprendre le breton à ses enfants, et du coup se trouve dans le ZEC, une manière de se dédouaner. Dans mon cas, ça marche. Donc voilà, c'est juste un petit avis personnel sur votre théorie qui, pour mon cas, marche. Voilà. Je ne sais pas s'il y en a d'autres. Je ne sais pas s'il y en a d'autres.
Oui.
Je ne pourrais pas la faire en mots. Je disais que l'explication qu'il donnait sur le fait derrière, c'est pas le même breton, les gens se réfugiaient sur ça, non. Parce qu'ils n'avaient peut-être pas eu le courage de faire apprendre le breton à leurs enfants. Moi, dans mon cas, c'est exactement ça. C'est-à-dire que ma mère comprend le breton très bien, mais ne veut pas parler le breton avec moi. Je ne sais pas faire, mais je me suis en train de prendre des cours et que j'essaye de la pousser à venir à des trucs en breton, et elle ne veut pas. Peut-être parce que en effet, vu qu'elle a un peu refusé le fait de m'apprendre le breton, peut-être que c'est...
Oui, je voulais seulement ouvrir une fenêtre là sur l'aspect psychologique de la question. Moi, je ne suis pas psycholinguiste, hein, donc j'ai aucune compétence. J'ai simplement émis l'hypothèse et je crois que il y a un terrain à creuser là, hein, parce que le rapport de des gens à la langue, bon, c'est un rapport affectif et on manque d'études, hein, sur cette question. Moi, je suis un linguiste pur et dur, hein, donc la grammaire, le machin, là, je suis à l'aise, mais beaucoup moins sur ce terrain-là. Hein. L'idée m'est venue justement suite à ce que je vous rapportais là sur la cour de la ferme. Ouais. Je n'y avais pas pensé avant, en fait. Hein. Puisque c'est pas la seule explication, il y a un très grand nombre de paramètres qui jouent. Forcément aussi l'exclusion de l'école, cultivé une sorte de sentiment de langue, de culture coupable en fait, hein, c'est une langue dont on a voulu se défaire, hein, comme on se défait de la mauvaise part que l'on a dans son identité, quoi, hein, les travaux de Delegouette sur l'identité négative, etc., sont très bons, hein, sur cette question. Autrement, ouais.
Je suis à part d'une expérience, mon père était du sud du Mystère, du pays du Bouddha, et il a vu venir dans l'île Brest s'installer, et je me souviens bien qu'il disait que si c'est pas le même breton, il avait l'air vexé. Il était vexé que les gens ne comprennent pas quand il parlait. Et dans vos écoutants, je vous disais finalement, il faut faire un effort.
Oui.
Il faut faire un gros effort sans doute pour essayer de comprendre les gens autour de vous qui ne parlent pas le même breton. Et faire un effort, ça vous dit que accepter d'aller vers l'autre, accepter de renoncer peut-être aussi à sa langue logique, comme vous dites, affectif, et renoncer à sa langue.
Il faut faire l'effort, effectivement, et aussi, mais une capacité que n'ont plus, ou n'avaient plus peut-être les bretonnants, les derniers bretonnants de naissance dans un milieu traditionnel, hein, le terminal speakers, la capacité de varier leur élocution en fonction de l'auditoire qu'ils avaient en face d'eux. Ceux qui réduisaient avaient autrefois la connaissance de la forme longue, qu'ils n'utilisaient pas, mais ils la connaissaient. Et en fonction des personnes qui se trouvaient en face d'eux, au lieu de dire pays, ils pouvaient dire pehini. Vous voyez ? Au lieu de dire ortrous, obertrous. Le mot Ober, qui est un verbe très utilisé, dans toute une diagonale qui va de Quimper à Guingamp, donc c'est la diagonale des feignants. Hein. Dans toute cette diagonale-là, on réduit ce verbe-là à Ortrous, très souvent. Mais tous, le bretonnant qui dit Ortrous, de temps en temps dira Obertrous. considéré comme forme d'insistance, voilà. L'arrête, l'arrête. Voilà. Quelqu'un qui dit l'arrête peut dire aussi, pourrait dire, voilà. La différence, je crois, de la dernière génération de bretonnants traditionnels et puis la précédente, c'est que ceux de la génération précédente, dans la mesure où ils avaient eu une relation à l'écrit, une relation au breton de curé, donc une relation à une certaine norme, cette génération d'avant avait la capacité de parler un breton plus large et moins réduit que la dernière. Et donc, à cause de cela, la perception de la différence était naturellement exacerbée pour ces derniers locuteurs. Autre... Bien. Tri. Mais causé de craindre, mais gagner vraiment que mal.
Ah.
Ah oui.
Et le blocage intellectuel qui se faisait automatiquement, et là, quand tout le monde comprenait le breton. Les standards étaient à 5. Donc là, on peut dire qu'il y avait de la communication parce qu'il y avait un enjeu. La deuxième chose, elle est moins drôle, hein, je suis allée il y a quelques temps, dernier jour, pour notre retraite, où elle est avec des enfants, je donne. Et. Alzheimer, à laquelle l'autre a dit, tiens, regarde, c'est les petits-enfants, ils apprennent le breton. Et elle a fait une enquête horrible en disant, oh, mais Pékin Louse, mais c'est Zoulouse. C'est la première fois que j'entendais à ce point-là quelqu'un auquel on avait mis dans la tête la langue bretonne. C'était corps, c'était vraiment dégueulasse. Elle en était terrifiée. Bon, après, c'est calme, parce que voilà, c'est un petit-enfant. Mais pour elle, c'était une langue sale. Je n'avais jamais, à ce point-là, vu quelqu'un avoir un tel rejet de la langue viscérale. C'est là qu'elle m'a dit. Mais ça montre quand même comment on nous a poussé dans la tête, parce que c'était une langue qui valait rien. Et le troisième exemple, c'était mon beau-père, quand ma fille que j'avais née, mon premier enfant, n'a pas appris du breton à ses enfants. Il prend ma fille sur ses genoux, il se met à lui chanter en breton et à lui parler en breton. Alors je sais pas mal. Mais il dit, regardez, où s'en va avec. Sauf entendu, on comprend, et puis elle ne va pas me juger, et puis elle va me dire que je parle mal du breton. Enfin bref, comme ça, bébé, c'est pas grave. C'était très curieux. Je n'ai pas compris sa démarche. Je pense que c'est. C'était un bébé, donc le bébé n'allait pas juger. Je pense que les gens ont peur du jugement de l'autre, de l'adulte. Alors, je te prends. Je pense que c'est ça.
J'aimerais rebondir sur ce que vous avez dit. C'est très intéressant parce que j'ai quelques notes que je prends au fur et à mesure. Et dans le dernier sondage de Franche Maudite, de TMO, en 2007, du coup, il y a un peu. Justement, il y a une stat qui revient sur la compréhension des médias audiovisuels, radio et télé, et en gros, 70% des auditeurs ou téléspectateurs qui étaient interrogés par ce sondage en 2007 disaient qu'ils comprenaient très bien ce qui se passait sur les médias. Voilà, pour revenir là-dessus. Et sur le. On va parler de la grand-mère aussi, j'ai du mal à parler breton, j'essaie.
sorte de regard. Moi, je me mets dans cette situation, des fois aussi, mes enfants, il y a une sorte de regard, de pression d'être au sommet. Dire, mais si je parle à mes enfants de retour, comme ça, je suis dans un public, on va me regarder un peu bizarre, mais c'est quoi, pourquoi ils parlent comme ça, parce que j'en connaissais bien, je ne sais pas. Et j'ai l'impression qu'on reconnaît un petit peu, du coup, ce blocage de nos anciennes générations. Et ça, il faut tout de suite se donner les moyens d'aller plus loin, parce que si nous retenons avec le breton en aide, si on ne va pas en public, ça n'ira pas très loin.
Moi, je voudrais plutôt témoigner, en fait, j'appartiens, moi, à la génération en 59, donc j'ai vécu toutes les vagues, 72, 73 avec Leveuve, 77 avec Douane, Leveuve, etc. Déjà, je souhaiterais, moi, remercier Luton Carvel par rapport à ces vidéos-là, à ces images, pardon, qui sont très humoristiques. Parce que faut peut-être que souvent je pose la question, l'avenir de la langue bretonne, elle est où? Est-ce qu'elle est en train de faire des spécialistes de la terminologie de la langue bretonne, ou est-ce qu'ils sont dans la voie des bretonismes avec du chavant ou avec voilà. Et je voudrais témoigner de mon épouse, moi qui étais au Sénégal d'une famille de malades. Elle était aide-soignante à l'hôpital et elle était référente au niveau de l'arabe et du wolof. Et en 2010, elle a fait le stage de 6 mois à Stubi parce que des gens mouraient à l'hôpital de Brest parce qu'on ne les comprenait pas. Ça, c'est une réalité. Elle a fait son stage 3 fois une semaine à Ouessant. À la maison de retraite de Ouessant, personne ne connaissait le breton. Elle a demandé à la directrice si elle pouvait prendre le bus de la maison de retraite et elle est partie en demandant aux gens où vous avez vécu. Dans le bus, tout le monde parlait breton. Donc ce que je veux dire, c'est qu'à un moment, il y a aussi de l'affectif à mettre en lien avec une langue. Et il y a aussi peut-être à tenir compte de faire un lien entre la culture de chaque personne, par sa trajectoire culturelle, avec l'avenir de la langue bretonne, parce que on est à peu près la même génération, mais on a vu des batteuses dans les fermes, on a vu l'agriculture paysanne disparaître, et aujourd'hui, les gens qui sont dans des classes bilingues, les enfants qui sont dans des classes bilingues, le monde a évolué, n'ont pas la même culture que nous. Donc, comment faire pour cohabiter et le vivre ensemble, mais aussi le vivre ensemble avec un breton, dans un aspect positif et affectif. Voilà mon idée. Et aussi, j'ai oublié de dire, quand on parle, enfin, quand les personnes, les soignants, parlent avec des gens qui sont malades, et notamment qui ont l'Alzheimer, il y a plein de choses qui nous ressortent. Et pour moi, je veux dire que quand tu disais qu'il y a des études à faire au niveau de la psychologie et de la langue, effectivement, parce qu'il y a des choses qui sont très fortes.
Ah oui, merci pour l'opinion. Mais d'autres opinions ou point de vue ou questions? Oui, ah. Bon, vous battez pas.
Aussi, donc voilà. dernièrement, il y a eu une, je ne sais pas si c'est la base, là, mais je crois qu'on va passer par fenêtre en Finlande, où les plus de la tâche, je ne sais pas si c'est. Donc, du coup, il y a une asso qui a réagi par rapport à ça, en disant on est au café pour les faire ensemble, et dire voilà, ouais, je suis. Il parlait comme ça tout seul à tout le monde, bon, on va mettre une photo, je ne sais pas s'il avait bien compris. C'est moi qui peux aller tranquille, mais voilà.
On ne comprend pas.
Donc, il était question, je crois que David de Brest a fait des actions au niveau de la langue bretonne, je crois qu'il y a la charte Pierre-Larve de Monnaie. On passe au niveau, on fait une action, donc c'est la sauvegarde. Et il y a de nombreuses personnes qui sont opposées à ça et qui le vivent comme une forme de condamnation. Par rapport à quelque chose, on est obligé à rentrer dans un système par rapport à la langue bretonne. Moi, je ne suis pas opposé, je suis assez ouvert là-dessus, mais il y a des gens, ça les perturbe. Voilà. Mmh. C'est ce que j'ai dit. Donc, c'est compliqué d'expliquer ces phénomènes de dialecte à des gens qui ne sont pas forcément acculturés à ça. Et vous leur expliquez qu'il y a eu la Renard, le Trégorois, il y a encore marié, et que la société évolue, et pour sauvegarder tout ça, on met ça dans un breton unifié. Mais j'ai eu énormément de mal à ressortir de ce café du matin où j'aurais pu expliquer que quand même, il y a des gens. Voilà, c'est ça, c'est pas ça.
J'ai quand même l'impression que. Devant la signalétique bilingue qui petit à petit se met en place, les phénomènes de rejet sont beaucoup moins importants aujourd'hui qu'ils étaient il y a 20 ans, ou il y a 30 ans, ou 40 ans, lorsque la commission de toponymie de l'Institut culturel de Bretagne a commencé à prendre contact avec les services d'équipement des départements, avec les conseils généraux, etc. Je peux vous dire que c'était pas simple à l'époque, et Dieu sait, et la majorité de ces services étaient opposés à faire avancer les choses. Aujourd'hui, le regard des gens... sur la langue change aussi directement lié à ce développement de signalétique. C'est parce que l'on voit des panneaux bilingues qu'on regarde la langue d'une autre manière. C'est parce qu'on commence à intégrer que c'est aussi une langue qui est normée, c'est aussi une langue qui s'écrit, c'est aussi une langue qui a une grammaire, donc c'est une langue. Et donc la perception de la langue a changé, et par le fait même, l'attitude de la majorité des Bretons. Je ne pense pas qu'il y ait aujourd'hui des oppositions frontales. Il y a qu'à voir, par exemple, la manière dont les différentes tendances politiques déclinent leur versant régionaliste, etc. Donc, non, le sens de l'histoire va, je pense, vers la réduction des oppositions. Non, c'était l'argument des différents services de l'État en 1987, quand on a commencé à avoir des relations avec les départements. Moi, j'étais président de la commission de toponymie de l'Institut culturel de Bretagne à l'époque, donc j'étais en contact direct avec les départements, avec les différents services de département. L'argument qu'on nous avançait, c'était celui-là. Et cet argument-là, on l'avait démonté en prouvant qu'il n'y avait pas plus d'accidents sur les routes du Pays de Galles, qu'il y avait une signalétique bilingue depuis très très longtemps, il n'y avait pas eu un mort de plus au Pays de Galles lié à la signalétique bilingue. Donc, ces arguments sont quand même aujourd'hui du passé, je crois. Hein. Oui, je crois que c'est vous qui voulez intervenir avant.
Est-ce qu'il existe des mémoires d'étudiants ou des études spécifiques concernant le basculement généralisé du breton au français dans les années 50?
Je n'ai pas très bien entendu ce que...
Est-ce qu'il existe des mémoires,
oui,
ou des études spécifiques, oui, sur le basculement généralisé, oui, du
Non, il y a, il y a, non, il y a des études statistiques. Il y a la thèse de Fañch Boudic, par exemple, hein, qui aborde la question. Mais des travaux de psycholinguistique concernant ce basculement-là, non, on n'en a pas. Et je regrette d'ailleurs, hein, mais
ça, il y a eu quelque temps, là, c'est dans des villes d'Aulan, à Piastel, une conférence par un gars qui s'appelle Jean-Pierre Cabrera, de Piastel, qui a fait quelque chose qui s'approche, pas exactement ça, mais ça s'approche, où il a fait une étude, plus ou moins statistique, comme je disais tout à l'heure, sur l'étendue du vocabulaire des Bretonnants. Il avait constaté que, avant la guerre, les Bretonnants avaient 8000 mots, juste après la guerre, ça avait déjà diminué à 6-7. Et 20 ans après, dans les années 30, c'était plus de 5000, et en 45, on était plutôt autour de 1100. Et après la guerre, on peut faire ça avec les années 50. On a eu des revivals, mais c'est pas. C'était écrit dans le cadre universitaire, hein, c'est dans le cadre du le doctorat, le troisième cycle.
Vous avez indiqué qu'il y avait une transmission du breton par la lecture. Vous pouvez indiquer à peu près vous avez indiqué qu'il y avait une transmission du breton par la lecture. Est-ce que vous pouvez indiquer vers quelle date ça s'est passé et quel était le pourcentage de personnes qui avaient accès à cet apprentissage par la lecture?
Le breton s'écrit depuis très très longtemps, hein, même depuis plus longtemps que la langue française. Dans les siècles derniers, le clergé apprenait aux bretonnants à lire. On est dans un pays de tradition catholique, donc où on apprenait à lire, mais pas à écrire. Si bien que sur les cartes du 19e siècle ou du début du 20e, lorsque l'on présente les régions où il y a une scolarisation importante, la Bretagne apparaît en blanc. Elle apparaît en blanc parce qu'on prend comme référence les gens qui savent écrire. On ne sait pas écrire. Quand on sort au 19e siècle des écoles dirigé par l'Église, qui durait un an, deux ans, guère plus, on apprenait à lire, mais on n'apprenait pas à écrire. Et lorsque l'on dresse les cartes des régions qui savent lire, mais ne savent pas écrire, ça a été fait par Emmanuel Toth en particulier, on constate qu'on a la carte des régions françaises où l'Église catholique a le plus d'influence. Voilà, en gros, ça correspond à ça. Donc on avait un apprentissage de la lecture, mais pas forcément de l'écriture. On a lu, et on a lu beaucoup. Si des ouvrages comme Buzarzen, La vie des saints, a été publié, republié régulièrement tous les 20 ans, c'est qu'il y avait un lectorat. Et La vie des saints, ça, on lisait tous les soirs. On lisait, on le réécrivait pas, mais on le lisait. Les catéchismes en breton, il y a eu des catéchismes en breton jusqu'à la dernière guerre. L'école interdisait le breton, aussi bien l'école publique que l'école privée d'ailleurs. Par contre, le prêtre, dans son apprentissage du catéchisme, utilisait le breton et des catéchismes en breton étaient publiés jusqu'au milieu du siècle dernier.
Mais, pardon, j'ai une grammaire
Ah ben les grammaires, on a toujours eu quand même une minorité de bretonnants lettrés qui ont publié des ouvrages, une littérature.
Hein. Dans les écoles.
Ouais. Dans les écoles très... En fait, ouais. Le problème du breton à l'école, c'est une autre question qui demanderait presque une... Et c'était à quelle année? Pendant la guerre, voilà. Alors, le breton était interdit jusqu'à la guerre. En 1941, est publié le décret Carcopino, qui autorise l'enseignement des langues régionales à l'école. Donc, à partir de 1941, le breton a été autorisé. En 1943, Monseigneur Duparc, qui est donc l'évêque de Quimper et du Léon, rend l'enseignement du breton obligatoire dans toutes les écoles catholiques du département. Alors, ça n'a pas été effectif, mais ça a bien commencé. Et je me rappelle avoir vu une cousine. Je suis né dans une famille où il y avait très grande différence entre l'âge des premiers enfants et des derniers, parce qu'ils étaient 11 enfants dans la famille de ma mère. Donc une cousine beaucoup plus âgée que moi, qui est décédée aujourd'hui, et qui a été scolarisée pendant la guerre, et qui était venue un jour fière de montrer le prix de breton qu'elle avait eu à l'école privée de Plogonnec. Et elle m'a montré « Arpescaour » de Roparsemonde. Et « Arpescaour » de Roparsemonde, c'était écrit, c'était traduit dans un niveau littéraire qui était déjà conséquent. Donc si quelqu'un, dans une école privée, en primaire, était capable, à la fin de primaire, de lire un ouvrage de ce type, c'est qu'effectivement, l'enseignement qui avait été dispensé avait été vraiment de qualité. Bon, après la guerre, de nouveau, le breton n'a plus de place. Et puis la loi d'Exon en 1952 va autoriser de nouveau le breton, mais la loi d'Exon aura très peu d'effet dans la mesure où ces décrets d'application vont sortir 20 ans après, mais aussi parce qu'on rentre dans une période où la majorité des familles ont décidé de changer de langue et le basculement linguistique se fait dans les années 50. Et il se fait à ce moment-là parce que ce n'était pas possible avant. Qu'est-ce qui se passe dans les années 50 ? Presque tout le monde a été scolarisé. Donc même le pépé et la mémé, s'ils ne parlent pas français, sont capables de le comprendre. Et donc on peut changer de langue dans le cadre familial. Le basculement se fait à ce moment-là. Donc comme le basculement se fait à ce moment-là, que les parents sont en train d'abandonner le breton, la loi d'Exon qui arrive, elle ne peut pas avoir d'effet. L'instituteur ne va pas imposer une langue que les familles sont en train d'abandonner. Alors, pourquoi est-ce que les familles abandonnent ? Alors là, le psycholinguiste, s'il vous plaît, encore, pour retravailler sur cette question-là. On ouvre là de nouveau un grand débat qu'on ne peut pas aborder ce soir. Ouais. Comment ? La raison pour laquelle c'était une idée qui était portée par le mouvement breton depuis tout le temps. Hein. La question à De Monzy en 1925, il y a eu avant la guerre des démarches de parlementaires demandant régulièrement, et puis il se trouve que là, la stratégie sans doute du pouvoir nazi, c'était de diviser la France plus possible, et donc c'était d'une certaine manière la revendication bretonne rentrait dans leur schéma. Hein. Ça c'est une autre question. Bon, tout l'environnement idéologique. Ce qui est sûr, c'est que le mouvement breton a fait une démarche en 1941. Auprès des forces d'occupation allemandes, et ce sont les forces d'occupation allemandes qui ont imposé au ministère de l'Éducation nationale de Pétain d'ouvrir la porte des écoles. Voilà. Alors, ensuite, tout l'environnement de cette période-là demanderait de très grands développements. Mais c'est la seule période pendant laquelle donc, le breton a une place à l'école. Et peut-être aussi que c'est parce qu'il y a eu ce précédent-là qu'après la guerre, les choses ne pouvaient plus être comme avant. Et que tous les partis politiques, à partir de 1947, vont déposer des projets de loi. Il y aura quatre projets de loi qui vont être déposés, en gros toutes les tendances politiques, pour demander l'enseignement du breton. Et on va arriver à la loi d'Exon. Bon, finalement, l'État est bien obligé d'adopter quelque chose. Il prend un défenseur des langues régionales, mais le plus tiède qu'il ait trouvé, qui venait des Pyrénées, quelque part, et qui était connu pour être vraiment celui qui était d'accord, mais vraiment sans aller très loin. Et donc, la loi d'Exon autorise une heure de breton par semaine, facultatif pour les enfants, facultatif pour l'instituteur, facultatif pour l'inspecteur, qui doit aussi donner l'autorisation. Il y a tellement de clauses que ça ne se mettra pas en place, ou très très peu. Une heure. Et c'est la seule loi qui existe aujourd'hui concernant l'enseignement du breton, qui n'existe plus d'ailleurs. Il y a une dizaine d'années, de temps en temps, pendant le mois de juillet, on balaye les lois qui sont devenues caduques, et c'est là où on a considéré qu'elles étaient caduques. Ben oui, forcément, parce que l'enseignement bilingue aujourd'hui, c'est pas une heure de breton par semaine qu'il propose aux enfants, mais c'est un enseignement bilingue. Donc la loi est aujourd'hui anachronique, donc elle a été balayée, enfin plutôt réinscrite dans le code de l'éducation, je crois, mais sans aucun effet, dans la mesure où les faits sont allés beaucoup plus loin que la loi. Oui. Oui.
Très bien, le breton, plus on entend parler. Mais je voulais que ma première remarque, c'était pas celle-là, c'était, je pense peut-être aussi qu'il faudrait croiser la psycholinguistique avec la sociolinguistique. Les années 50, il y avait à peu près, dans la population active, une grande majorité qui était une population rurale, entre 45 et 50%. Aujourd'hui, on est dans la population rurale, dans la population active, on en est à 2 à 3%. Il y a eu ce qu'on appelle l'exode rural, et avec la mécanisation, tout a changé. Or, quand j'étais enfant, je suis le Quimper, je suis née dans la ville, je suis le fameux foutu chaînon manquant qui fait qu'on n'a pas parlé de breton, on s'adressant à moi, mais j'étais bénie dans le breton. Et dès qu'on sortait de la ville, dès qu'on était à la campagne, tout était en breton, tout le temps. Et puis cette société-là a disparu. Ce qui fait que, avec tous les aspects affectifs, psycholinguistiques qu'il peut y avoir, je pense qu'il y a une raison profonde qui est la transformation vraiment de la société. Et puis, dans ma génération, dans mon époque, parler français, c'était l'ancien. Parler breton, c'était de l'ancien temps. Et tout ça s'est croisé. Et moi qui vais apprendre le breton maintenant, j'ai même.
Je suis tout à fait d'accord. D'ailleurs, l'une de mes diapositives présentait, je crois, à un moment, deux courbes, celle de l'évolution de la population rurale et la population urbaine. Il y avait deux Bretons des champs après-guerre pour un Breton des villes. Et il y a aujourd'hui trois Bretons des villes pour un Breton des champs. C'est évident. Alors, sur votre remarque concernant la période de la guerre, oui, naturellement, on ne va pas s'étendre là-dessus. Je ferais simplement remarquer que c'est vrai que ça peut être ressenti comme un boulet par certains, mais il semblerait quand même que dans les faits, il n'y a pas eu de très grandes répercussions sur la pratique linguistique. Parce que si l'on prend les régions où la résistance a été très très forte, ce ne sont pas les premières régions qui ont débretonné. Les régions qui ont eu une implantation de la résistance très 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 importante sont restées bretonnantes souvent et très très tard. Donc la relation entre la collaboration et la langue, ça, je pense pas que ce soit tout à fait très vérifiable. Par contre, et c'est vrai que là, sur le plan sociologique, il y aurait une idée à développer, des régions qui, au contraire, ont développé une économie rurale moderniste, etc., ces régions-là ont débretonné beaucoup plus vite que les autres. Voilà. C'est plutôt le fric qui, à un certain moment, a été défavorable aux Bretons hein, que les événements de la guerre.
Parce que souvent, je me rends compte quand j'écoute maintenant les jeunes qui sont plus autant la Divande, tout ça, qui n'a pas de notion de breton avant, il n'y a pas, pas l'accent, c'est neutre. C'est un breton qui est.
Oui. Alors, il y a sûrement de l'influence, hein, parce que quand on est bilingue, les deux langues ont toujours un flux, les unes sur les autres, sur le plan phonétique également. Il suffit d'écouter les Québécois parler français, il est évident qu'il y a une part d'influence du système anglophone hein, sur leur parler français. Alors, est-ce que pour le breton, ça fonctionne de cette manière aussi? Il y aura sûrement de l'influence. Jusqu'à quel point, c'est la question. Et je pense que les enseignants des écoles bilingues sont conscients de ce point-là et que la musique de la langue soit aussi quelque chose qui va être enseigné au même titre que les règles de grammaire. Hein.
Retenu sa question pendant des heures.
Le mot de la fin. Bon, c'est une nos enquêtes, hein, de ce game.
Voyons, Dres.
C'est monté de
Dres. Dres.
On a lu de la route. Hein.
C'est une bête. C'est une. D'ailleurs. Ah, voyons. On a un gros. Cross. Dres.